Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
Tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllabe.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans Tonnerre de Brecht.
On s'est un peu absenté ces dernières semaines, mais on est toujours là.
Et oui, avec les théâtres fermés, difficile de continuer à vous en parler. Et puis, on s'est dit que non, on continue et on vous réserve plein de surprises.
On est aussi très heureux de vous retrouver cette semaine, puisqu'on fête les 1 an de notre émission. Bon anniversaire, Martin.
Bon anniversaire.
Dès que les bars réouvriront, on sera ravis de fêter ça autour d'une belle pression.
À la sortie d'un super spectacle, espérons-le.
Et en attendant, on reprend cette semaine et nous ne sommes pas tout seuls en studio.
Oui, nous recevons Odila Présulmé en deuxième partie d'émission, mais maintenant c'est Kev Larage qui nous fait la joie de venir nous parler slam, poésie et texte. Bonjour.
Bonjour à vous.
Mais avant de vous en dire plus, comme d'habitude, les actus.
Dans quelques semaines, Marion Sieffer, que nous avons eu la chance de rencontrer au plateau TNB de 2019, propose très fréquemment des représentations de son dernier spectacle, Jeanne d'Arc, sur Instagram. Du live donc, mais du théâtre quand même adapté aux conditions à travers un travail sur les réseaux qui se prête très bien au spectacle puisqu'il est question d'une adolescente en plein questionnement existentiel. N'hésitez pas à suivre la page Insta de Jeanne d'Arc pour être au courant des prochaines diffusions. On peut aussi retrouver Dussal, que vous avez peut-être pu voir en 2019 au festival du TNB, sur le site du théâtre d'Aubervilliers en direct les 16 et 17 février à 20h.
Le théâtre de la ville nous propose aussi de la danse demain à 15h. Près d'une grotte, un homme trouve la peau d'un phoque et la cache chez lui. Plus tard, au même endroit, une femme nue en pleure. Il la réconforte et ils ont une ribambelle d'enfants, mais un jour, la femme trouve la peau et c'est la sienne. Le spectacle Nos Amours Bêtes sera en effet retransmis en direct sur YouTube, un lien que vous pourrez retrouver sur le site du Théâtre de la Ville, et c'est demain à 15h.
Demain aussi, Planète Yo propose un rendez-vous, il s'agit du charivari de février. Un charivari, c'est quoi ? C'est, selon le dictionnaire, un grand bruit, un tumulte. Et ce grand bruit se fera dans la librairie, pas sur Internet, l'occasion d'écouter des textes de poésie, de slam et politique, avec Kev Larage et Odila Présulmé, que nous avons la chance de recevoir aujourd'hui.
Mais avant de retrouver nos invités, on cède la place à la musique avec Jacques Higelin et sa chanson « La rage en dedans ».
Cette claque dans le sang, connaissant le diable t'a offert. Que toutes les pluies de la terre se chopent en travers du blaze, les gaz du pot d'échappement de ton chopper. Périphérique ouest, d'ardeur où je t'écrase la gueule dans la vase. Et le reste on verra ça plus tard. Archange blafard. Tu
sac et des allures d'acrobate qui va s'écraser les pattes dans l'ascure. Par à la castagne, tout droit dans le panneau. Putain, les ordures, salaud. Combien pour la peau d'un bâtard? Un ange en colère vient de renvoyer ses chaînes et son cuir. Dans l'auréole du casque, sur le masque blanc de la mort, la bécane pleine de sang, la roue qui tourne encore, la sirène et les cops qui ricanent. T'as voulu se laver les craques, 10 contre 1 dans une flaque, sous les coups de la démaniaque du baston. Que toutes les putes de l'enfer se brossent la chatte et les couilles devant la maigre dépouille d'un sucker. Avec la rage en même temps, cette claque dans le sang, connaissant le diable t'a.
Nous sommes toujours dans Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab, et vous venez d'écouter La Rage en dedans de Jacques Higelin. La Rage qui est le nom de notre première invitée. Est-ce que Kev La Rage, ça vient de Fav La Rage, le rappeur?
Non, pas vraiment, même si il fait partie des chanteurs avec lesquels on a grandi. Non, mon nom de famille c'est Raji, et ça a été une déclinaison faite par mes amis qui m'appelaient mon Raji, ma Rage. Et c'était une manière aussi de prendre un pseudo sur Facebook pour quand j'ai fini mes études en podologie. Et de là est devenu Kev La Rage. Et en arabe, je suis à moitié marocain, Raja, c'est l'espoir. Donc d'un côté la colère, d'un côté l'espoir. Deux éléments nécessaires, je pense, actuellement pour avancer.
Eh ben, merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation.
Alors Kev La Rage, vous êtes souvent associé à la poésie, au slam, aux contes, aux histoires. Il semble qu'une grande histoire d'amour vous lie aux mots, mais alors, pour commencer, comment est-ce que vous définiriez par rapport à tout ça?
Je me définirais comme un raconteur d'histoire, vraiment. Même quand j'écris un slam, j'écris une poésie, souvent il y a un début, une fin, ou alors la fin se retrouvera peut-être dans un autre texte, mais c'est des moments de vie que je capte et que je raconte. J'ai pas mal voyagé pour le travail, donc en allant dans des lieux très divers. C'est des fois des tranches de ces endroits que j'essaye de ramener pour ouvrir les yeux à distance, mettre en exergue d'autres choses, d'autres manières de vivre, d'autres mentalités aussi. Donc c'est raconter des histoires de ce monde-ci et des mondes qui le composent, parce qu'on a tous des visions différentes en vivant dans le même espace.
Et vous travaillez plusieurs langues, tant le français que l'espagnol ou l'anglais. Qu'est-ce que cela apporte à votre travail ?
Alors ça apporte beaucoup de contraintes techniquement, c'est un sacré défi de parfois les mélanger en essayant d'avoir des sonorités aussi qui vont ensemble. Et à côté de ça, le but c'est d'être compris en fait, plus largement. J'ai eu l'occasion de faire des scènes ouvertes au Panama, pas le bar de Rennes mais le pays d'Amérique centrale.
Okay.
Et donc là-bas il y avait un public qui était beaucoup plus hispanophone et anglophone que francophone. Donc j'avais aussi envie, au-delà de la prestation, de pouvoir créer un lien avec les gens. Donc il fallait que je sois dans leur langue. De parler à leur langue de cœur et pas forcément à leur langue de tête, les langues qu'on a apprises. Et voilà, la semaine dernière, on a fait un petit récital poétique et chorégraphique avec du français, de l'anglais, de l'espagnol et aussi quelques poèmes en italien, roumain et hongrois. Car on a une communauté d'amis avec ma famille qui sont pas mal dans ces pays-là. Donc là, j'ai voulu faire quelque chose d'assez universel, avec myriade de sous-titres, etc. Voilà, je suis en plein dedans, là.
Mais du coup, vous écrivez les textes en français, puis vous les traduisez, ou est-ce que vous écrivez aussi dans les autres langues directement ?
Les deux.
Ok.
Le plus souvent, j'ai adapté des textes que j'avais déjà en français, adaptés en espagnol ou en anglais, et parfois, il y a des textes qui sont venus spontanément dans une langue ou dans l'autre, ou en trilingue. Je me suis amusé une ou deux fois à faire vraiment exercice de style, ejercicio de style, et de mélanger tout. Alors après, ça sonne comme ça sonne, il y en a qui apprécient, il y en a qui n'apprécient pas, mais pour moi, ça reste à chaque fois de l'entraînement, d'autres exercices à travailler quand il y a les scènes ouvertes, quand il y a des occasions comme ça. Et je garde ça en tête pour des futurs projets un peu plus élaborés ou un peu plus longs, quand on a 3 minutes sur une scène. On ne peut pas forcément aller dans quelque chose de très abouti, pas toujours, hein. Mais c'est aussi un endroit où on peut s'entraîner. Et moi, je vois ça comme un terrain de jeu.
Donc vous faites, comme on l'a dit, durant les actus, vous faites partie de l'équipe des Charivari de la librairie Planetio. Alors ces petites rencontres dans la rue, devant la librairie, ont lieu une fois par mois. Elles ne se sont pas interrompues avec, peut-être avec le confinement, mais en tout cas elles ont repris. Qu'est-ce que ça apporte pour vous de vous produire, si on peut dire, je ne sais pas si on peut parler de production en soi, mais de dénoncer vos textes dans l'espace public?
Alors pour remettre un peu de chronologie, Planetio a commencé ça au premier déconfinement en mai, notamment avec Odila Présulmé. Ils ont fait le théâtre Yo qui était tous les jeudis en fin de journée et ils ont continué jusqu'au 14 juillet à peu près. Et il y avait plusieurs dizaines de personnes à chaque fois présentes sur le trottoir. On est devant la librairie, le trottoir est un peu élargi, c'est juste à côté de la cité. Et bah, ça permet aux artistes de continuer d'exprimer des choses et aussi de... Au-delà du kiff de l'artiste à se produire, à montrer son petit moi et tout, c'est pas vraiment ça, je pense, le plus important, là. C'est de mettre en résonance des questions, de recréer des espaces de dialogue. Et je trouve que le slam et la poésie s'y prêtent bien aussi, parce qu'on peut facilement sortir du texte et discuter avec les gens. Je pense que c'est peut-être un peu plus dur avec le théâtre, après je me trompe peut-être. Mais là, il y a une manière où on peut apostropher les gens, créer un peu du débat sur place, qu'il soit dans la tête ou qu'il soit oral. Et je pense que c'est ça qui est important actuellement. C'est pas juste oh, j'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie d'aller voir le dernier Intel et tout. Là, je pense qu'il y a un réel besoin de dialogue, d'échanger sur les problèmes, de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans certains problèmes et de recréer de la communication en fait.
Vous avez prévu un petit texte pour nous. Est-ce qu'on peut l'entendre dès maintenant?
Avec plaisir. Alors, c'est extrait de Slam Junk Contestation, qui est mon premier booklet qui est sorti à Bruxelles en octobre, chez Maelstrom. Et le sous-titre, c'est « L'outrecuidance de l'homme, l'homme avec un petit H ». Le texte s'appelle « Ligature ». J'ai voulu ligaturer mes trompes. Il m'a dit que je devais me tromper, qu'il fallait mûrement réfléchir. Je lui ai répondu que j'étais sûr, j'ai tenté de le faire fléchir. Je suis mûr et fatigué de ces boniments de blouse blanche. Elle a insisté, m'a certifié que j'allais le regretter, comme elle prescrit des petits comprimés, en me regardant à peine. S'il avait pris le temps, il aurait vu que ce corps ne lui appartient pas. Il se serait dit, tiens, cette femme a l'air sûre d'elle, délivrons-la du poids de la reproduction, si c'est ce qui la gêne. Elle a préféré juger de ma vie par elle-même, sans rien y connaître, mon corps, ma relation, mon histoire. Propilule, Produrex peut-être. Est-il provi, des petits soldats pour la patrie? Patriarche, sans doute. Professionnel, ça, j'en doute. Quand j'ai voulu me refaire les seins, tu n'as rien dit. Quand j'ai gonflé mes lèvres, tu n'as rien dit. Quand tu m'as bombé les fesses, tu n'as rien dit. Quand tu m'as ouvert le ventre sans demander, je n'ai rien dit. Quand tu m'as découpé l'origine du monde à vif, j'ai crié, mais je n'ai rien dit. Tu ne poses pas de questions pour me rendre désirable ou pour me faire enfanter. Alors pourquoi tant de pression quand de mon corps je souhaite disposer? Si mon choix t'indispose, je te donne un indice. Prends une pause, pose-toi la question, qu'est-ce que ça peut te foutre? Je suis outré que tu oses m'imposer ta façon de penser. À quoi me sert d'être adulte si je ne suis pas libre d'avancer? Si tu considères mon choix comme un recul, désolé si je te bouscule, mais va te faire. Acculé, je suis. Dose au dogme de ta vie. J'en ai ma dose de ta médecine, que ma décision n'ait le droit de citer. Que tes incisions soient vicieuses, de ne pouvoir choisir comment être heureuse.
Merci. Donc vous avez sorti un livre qui s'appelle Slam Junk Contestation. Et vous venez de nous en lire un extrait. C'est un recueil de textes de slam. Alors, vous faites un gros travail de mise en voix sur vos textes, mais quelle est aussi l'importance pour vous de les proposer à un lecteur, de les proposer par écrit?
Alors, quand le texte est écrit et mis sur papier, il ne nous appartient plus. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est une manière de le lâcher au monde et de se dire, on verra ce qui se passe. Ça permet à des gens de trouver des choses qui leur parlent. Et quand je dis qui leur parlent, ça ne veut pas forcément dire qui leur plaisent. Mais dans les thèmes, dans les questions qui sont abordées, on peut ne pas aimer la forme et quand même accorder de l'importance au fond du propos. Et L'idée, pour moi, c'est de diffuser. C'est que ces idées-là puissent partir un peu plus loin. Et aussi toucher des gens avec un petit format comme ça. C'est un livre qui n'est pas très épais. C'est toucher des gens qui n'iraient pas forcément vers la poésie ou vers ces manières-là. Là, je l'ai mis à vendre chez un disquaire. Il y a une dame qui vend du miel à Gévesé qui m'en a pris. Ça me fait plaisir de mettre ça dans des endroits un peu incongrus, de ramener ça aux gens, que les gens se rappellent que la poésie, c'est populaire. C'est pas réservé à une élite, c'est pas un truc plan-plan avec du thé et le petit doigt en l'air. La poésie, c'est la parole des gens, c'est la parole de la vie tout autour. Les gens en consomment même en écoutant de la variété ou autre, elle est partout. Donc c'est, pour moi, de la proposer par écrit, c'est de continuer à dire la poésie nous appartient. Elle n'est pas forcément que dans la Pléiade ou dans des choses en haut des étagères.
Et vous avez aussi monté un spectacle qui s'appelle Kokoro no Kamae. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça a consisté et qu'est-ce que cette expérience de la scène et de la confrontation avec la musique a apporté à votre travail ?
Alors, Kokoro no Kamae, c'est le nom du livre autobiographique qu'a écrit mon père il y a un an ou deux maintenant. Et en fait, c'est un spectacle qu'on a fait pour le vernissage de ce livre. L'idée n'était pas juste que les gens viennent et ils signent le bouquin et ils les donnent. Je lui ai dit, on va faire quelque chose, on va mettre un peu de musique, on va s'amuser un peu. On a fait ça dans le bar d'un ami, donc on avait à peu près carte blanche. Et l'idée, ça a été de faire une lecture augmentée de son livre. Donc au lieu de m'asseoir et de lire des passages, j'ai choisi des passages, je les ai mis en lien avec les calligraphies japonaises martiales qu'on trouve dans le livre. Et j'ai créé des textes de slam pour l'occasion qui résonnaient avec ce monde des arts martiaux, de l'éducation. Il y en a quelques-uns qui sont dans le recueil, le désir de mon âme, etc. Et avec les musiciens, donc il y avait Tristan Auvray, Erwan Hervé et Zakaria Bardadi. Ça a été très, très improvisé. On a fait peut-être deux sessions de répète d'une heure à peine. Et on y est allé. Eux, c'est trois professionnels. Donc je me suis laissé porter vraiment par leur talent, en vrai. Moi, je n'ai pas vraiment d'éducation musicale, solfège ou manuel, que dans les oreilles. Donc je me suis laissé porter par leur musique. On avait deux, trois thèmes. Et une grande partie de ce qu'on peut voir sur les vidéos, c'est de la dernière minute, c'est de l'impro et je fonctionne très souvent comme ça.
Et du coup, on peut voir ça sur YouTube, c'est ça ?
Ouais, il y a une bonne partie du spectacle qui est sur ma chaîne YouTube, Kev Larage. Vous pouvez trouver différentes parties des différents petits récitals que j'ai fait comme ça, plus ou moins informels.
Eh bien, on invite toutes les auditrices et tous les auditeurs à aller sur cette chaîne YouTube.
Il y a aussi des extraits des Charivari sur YouTube.
Et avant de retrouver notre seconde invitée, Odila Présulmé, on s'écoute un morceau qu'elle a choisi tout de suite avec la pause musicale. Thank you. Vous êtes toujours dans Tonnerre de Brecht sur Syllab et nous venons d'entendre Jeff Beck avec le morceau
As We Handed As Love.
Voilà, j'ai préféré ne pas le dire parce que je savais que j'allais mal le prononcer. Et c'est un morceau que tu as choisi, Odila Présumé, qui nous a rejoint dans le studio. Alors, bienvenue à toi et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Apprenons à nous découvrir un peu plus avec cette première question. Pourquoi avoir décidé de partager avec nous cette musique ?
Disons que j'ai As We Ended As Lovers, ça préfigure un petit peu une des pièces de théâtre que je suis en train de monter avec des comédiens qui s'appellent Les Hommes Volants. Et c'est un triptyque sur les relations amoureuses via Internet, justement le questionnement de la possibilité ou de l'impossibilité des rencontres sur la base de la problématique féminin-masculin, la rencontre est-elle encore possible ou est-elle possible ? Et donc, c'est sur cette pièce de théâtre que je travaille actuellement avec un comédien. Et donc, musicalement, c'était vraiment Jeff Beck, ce morceau qui collait, on va dire, à l'univers.
Donc, vous avez été formé au Conservatoire de Rennes, en théâtre et en chant. Vous avez suivi à Rennes 2 un cursus en culture et langage, mais aussi en littérature et langue, en travaillant sur le théâtre espagnol du siècle d'or et le théâtre d'Heiner Müller.
Oui, tout à fait, oui.
Pour les étudiantes et étudiants qui nous écoutent et qui chercheraient un master pour l'année prochaine, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur vos études ?
Alors, au niveau de mes études, c'est vrai que j'ai toujours mené de front la partie artistique en m'inscrivant au concours du Conservatoire d'art dramatique de Rennes quand je suis sortie du bac, qui est en 99. Donc, ça remonte un petit peu maintenant. Donc, et j'avais envie en même temps de continuer à asseoir un certain bagage culturel en m'intéressant à la civilisation, les langues et les civilisations, notamment ibériques, parce que je viens, moi, d'Haïti. Donc, Haïti, nous savons très bien qu'Hispaniola, au départ, c'était quand même la République dominicaine et la petite et Haïti. Et donc, j'étais en proximité avec cette frontière. Et donc, la langue m'est restée, je pense, comme quelque chose de l'enfance, que j'avais envie d'explorer, d'apprendre un petit peu plus les langues et les civilisations pour comprendre qu'en fait, on est toujours dans des renouveaux civilisationnels et que les choses ne sont jamais arrêtées et qu'il y a... En tout cas, ce sont des études qui m'ont ouvert vraiment sur le monde et la pluralité des entendements et des épistémologies, en fait.
Et qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui de tout ça dans votre travail ?
Dans mon travail, je dirais qu'il me reste le travail sur le langage. Je suis dans un théâtre vraiment qui s'axe sur une textualité particulière, sur la recherche de textualité particulière. Je considère que le texte, c'est comme un pays étranger. Et on doit apprendre la langue, quand bien même ce serait en français notre langue maternelle. Il est intéressant d'apprendre cette langue-là et d'y pénétrer comme en pays étranger, c'est-à-dire avec un certain recul, un certain respect aussi. Et c'est vraiment je dirais que c'est cette façon-là que j'ai de concevoir l'aspect civilisationnel et sociétal en fait du théâtre, quoi. C'est vraiment l'idée d'explorer des pays étrangers à travers des auteurs.
Alors, vous avez créé en 2005 le Théâtre des Murmures et vous vous définissez comme chanteuse, dramaturge, slameuse, conteuse et metteuse en scène. Quelle est la pierre angulaire du coup de toutes ces activités ?
La pierre angulaire, c'est la mise en scène. C'est vraiment En fait, quand je suis sortie du Conservatoire d'art dramatique, généralement, on préparait plutôt des actants, des comédiens. Et moi, j'avais déjà ce désir de la mise en scène dès ma deuxième année de conservatoire. Et je suis partie du conservatoire pour faire de la mise en scène. Et donc, ma première mise en scène, c'était à l'âge de 22 ans, pour le festival Travelling Lisbonne, et où j'avais monté encore un auteur étranger en trois langues. Donc, on retrouve aussi ma culture linguistique et les recherches de polysémie, etc., dans ce montage de texte qui était Le Marin de Fernando de Pessoa, où on l'avait présenté en portugais, en italien et en français. Donc, c'était intéressant de marier le théâtre comme ça et comment rentrer dans un espace onirique, un espace autre où il y a quand même un entendement commun.
Et vous êtes également professeur de théâtre dans l'éducation nationale.
Non, pas dans l'éducation nationale, pour la compagnie La Poudrière, d'accord, que j'ai refondée en 2016. C'est une continuité de du théâtre des Murmures. Et donc, j'enseigne le théâtre actuellement avec le Covid. Ben, je fais du théâtre en individuel.
D'accord.
Voilà, c'est chez moi que ça se passe, donc je le dis. Mais on n'est pas six, donc
tout va bien.
On est juste deux à distance. Et donc, mais c'est parce que j'arrive pas trop à concevoir le théâtre en distanciel. J'ai du mal à le... Et c'est vrai que là, bon, ben, ça permet à une personne d'avoir une heure rien que pour elle et de développer des choses très très assez profondes quoi.
Et du coup, de quelle manière vos activités de dramaturge, comédienne, metteuse en scène influencent-elles le métier de pédagogue ?
Alors moi, ça m'influence dans le sens où en tant que metteur en scène, on développe bien sûr le focus de l'observation. On est vraiment très attentif, on est quand même sur le qui-vive. Quand on est dans la mise en scène, il y a une forme de qui-vive par le regard, par l'écoute. Et je réutilise ça dans mon travail de pédagogue, dans le sens où je ne suis pas à tenter de, comment dire, d'inonder la personne de métaphores, mais au contraire, on travaille beaucoup sur le silence, sur le rapport au silence et des non-dits. Dans la pédagogie, donc ce qui me permet d'avoir un, je dirais quand même, un regard assez aiguisé. Ça aiguise mon regard et ça permet à celui qui est en face de se livrer assez pleinement, je trouve, scéniquement parlant.
Alors depuis septembre 2020, vous avez créé le Petit Théâtrio à la librairie du même nom, rue Saint-Louis à Rennes. Oui. Avant le reconfinement et tout ce qui a suivi, vous proposez au public de la librairie et à tous les gens qui voulaient venir des lectures théâtralisées tous les derniers jeudis du mois pour faire entendre des textes qui n'étaient pas forcément des textes de théâtre. Pourquoi cette volonté de faire entendre d'autres mots que des mots de théâtre ? Et où en est cette initiative aujourd'hui avec tout ce qu'on connaît ?
Donc juste un petit rectificatif, en fait, c'est au sortir du confinement, il y a eu, du premier confinement, il y a eu une initiation de ce qu'on appelle les jeudis dans la rue, en fait, juste sur le trottoir de Planetio. Il y avait la possibilité pour tout individu de venir dire des textes, quels qu'ils soient. Donc des textes personnels comme des textes poétiques, sociologiques, philosophiques, etc. Et donc, ça a donné des rencontres. Ça a permis la rencontre que j'ai faite avec, par exemple, la comédienne Nadège Cotenay et Baptiste Rivier, ces deux comédiens avec qui je travaille actuellement sur Les Hommes Volants. Ça a permis des rencontres et puis, ça a été une commande, on va dire, d'intention. Qui m'a été faite par la librairie Planetio, d'intention par rapport à un théâtre du texte. Voilà, c'est pour ça que c'est vraiment un théâtre qui est ouvert sur une textualité, ou une recherche de textualité différente et dit, comme je vous disais, toujours ces pays étrangers. C'est vraiment dans cet esprit-là. Et donc, la première lecture théâtralisée, ça abordait la question du féminisme. Voilà, je crois que vous étiez venu à Martin.
Oui, c'est ça.
Voilà, et donc c'était le premier abord en fait de ce théâtrio du texte qui n'était pas simplement un texte théâtral, parce que ce jour-là, c'était une lecture croisée sur Virginie Despentes. C'est pas du théâtre pur, c'est du roman, tandis que Geneviève Fraisse, c'est de la philosophie. C'était sur la fin de l'histoire de Geneviève Fraisse. Et puis Ibsen du théâtre pur. Voilà, Ibsen, la maison de poupées. Une maison de poupées. Et donc c'était cette lecture croisée qui a lancé, qui a impulsé en fait, on va dire, les intentions du théâtrio, qui est de présenter un théâtre dénudé déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que du texte. Et la personne qui porte ce texte, qui l'interprète, qui le dit, qui le slame, pourquoi pas. Mais en tout du moins, il y a la personne ou deux personnes maximum. Donc c'est un théâtre réduit au niveau du format de ce qui est proposé. C'est pour un nombre très limité de spectateurs, vu les conditions Covid actuellement. Bon, ça tombe bien, même si tout est fermé. Donc, c'est très compliqué de perdurer parce qu'on a dû annuler depuis décembre les différents théâtriaux qui devaient se présenter. Donc, on a l'espoir qu'au mois de... au mois d'avril, on puisse avoir la possibilité de présenter Les Hommes Volants, justement, que ma compagnie, la compagnie La Poudrière, produit et met en scène par mon entremise. Et donc, on a cet espoir-là que ça puisse reprendre en avril. Mais il y a déjà au moins, jusqu'au mois de juin, une programmation de fêtes. Voilà, et qui est distribuée par le mailing de la librairie Planetio.
Et comme vous l'avez dit, j'ai eu la chance d'assister à la première lecture théâtralisée en septembre 2020. Et vous avez dit à l'issue de la prestation que vous aviez choisi les comédiennes de la lecture suite à un casting sauvage.
Oui.
Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le procédé ?
Alors, au niveau du théâtre des Murmures, c'était l'idée d'une mixité sociale. C'était vraiment cette idée-là. C'est-à-dire c'était cette possibilité-là que nous avons de pouvoir enlever nos habits sociétaux et pouvoir revêtir les êtres créateurs que nous sommes. Mais pour cela, il faut aller rencontrer dans tous les espaces pour pouvoir rencontrer les différents actants de ce processus de mixité sociale. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu caster, que ce soit à l'université, à des arrêts de bus, c'est-à-dire qu'un son, une façon de parler, un regard, un échange, pour moi, crée la possibilité de théâtre et me donne ce que je cherche chez les actants avec qui je cherche à travailler, des êtres photoscéniques, c'est-à-dire qui irradient quelque chose naturellement et qui nous permet, voilà, il suffit juste quelques bricoles de l'artifice théâtral pour faire irradier ça encore plus et sublimer l'acte créateur. Mais c'est vraiment ça, cette idée de casting sauvage, c'est-à-dire c'est cette possibilité-là que ce n'est pas dans un cercle fermé que je vais rencontrer les personnes qui vont être à même pour moi, dans mon idée, de porter tel ou tel texte.
Mais est-ce que on accepte tout de suite quand on se fait caster comme ça
Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas eu de refus.
Ah, okay.
Voilà, jusqu'à présent, alors soit j'ai une façon de confiance, hein, vous savez, comme Ska, mais je ne crois pas. Mais jusqu'à présent, non. C'est-à-dire que c'est... Je sais, par exemple, Baptiste Rivier, je l'ai casté à la librairie. Il m'a parlé, voilà, ce qu'il dégageait m'intéressait. Et je lui ai donné un texte à lire dans la librairie. Donc, et voilà, et c'est comme ça, j'ai dit, bon, ben, on se retrouve à telle heure, tel jour. Okay. Voilà, c'est vraiment dans cet esprit-là. C'est-à-dire, sur le moment, il y a quelque chose qui est dégagé. Et donc, qui émane, en tout du moins. Et c'est ça c'est ce qui me plaît, en fait, dans ce casting sauvage. C'est cette rencontre inopinée. Voilà, c'est vraiment une rencontre inopinée.
Et du coup, vous agissez un peu comme un coup de cœur. À chaque fois.
Oui, c'est ça. Il y a un coup de cœur, oui, c'est vrai. Il y a un coup de scène. Voilà.
Okay. Eh bien, du coup, en parlant de coup de cœur, Léa, tu as un coup de cœur aujourd'hui pour nous.
Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre de mes grandes passions que le théâtre, la BD. Mais ne vous inquiétez pas, le spectacle vivant n'est jamais bien loin. À l'occasion du festival de la BD d'Angoulême, j'ai pu découvrir un titre primé, Tanz, écrit et dessiné par Morane Mazar, une jeune autrice donc qui lui vaut le fauve du meilleur espoir. Mais parlons un peu plus de cette BD. Et oui, il s'agit d'un gros coup de cœur pour moi aussi. Dans l'Allemagne de 1957, on suit le personnage de Uli, un rouquin plein de taches de rousseur au visage tendre. Uli est un jeune homme de 19 ans, élève d'une prestigieuse école de danse moderne. Sa fougue contraste avec la mélancolie de l'Europe d'après-guerre. Il est passionné de comédie musicale, mais cette passion est moquée par ses camarades qui jugent cette discipline trop commerciale. Et lors d'un voyage à Berlin, il rencontre Anthony, un jeune danseur afro-américain. Ce dernier suggère Uli de venir tenter sa chance à Broadway. En plus d'une histoire d'amour, l'autrice nous apporte la question de l'homosexualité dans un monde encore en reconstruction après de terribles années de conflit. Mais ce qui m'a définitivement tapé dans l'œil, ce sont les corps dessinés. Les mouvements sont superbement relatés, les chorégraphies nous font presque penser que les personnages s'agitent sous nos yeux. C'est parfois même plus vivant que certaines captations qu'on trouve aujourd'hui. Morane Mazar réussit le pari compliqué de convoquer la danse en images, une danse qui, en plus, n'est pas forcément des plus réputées, la comédie musicale. Tout cela confronté au ballet classique étudié par Ulli. Un mélange savamment rapporté par les couleurs et une précision des dessins juste sans être naturaliste pour autant. Juste ce qu'il faut, quoi. La passion du jeune homme pour ce domaine méprisé par les autres élèves de l'école nous permet d'en découvrir l'envers du décor et apporte définitivement une petite touche de couleur et de musique dans nos vies. Une lecture que je ne peux que vous conseiller à lire et à relire.
Ben merci beaucoup Léa pour ce coup de cœur et c'est sur cette dose d'amour que s'achève l'émission. Encore une fois, merci à Kev Larage et à Odila Présulmé d'avoir accepté notre invitation.
Merci. On rappelle quand même le rendez-vous du week-end, le Charivari, auquel participeront nos deux invités, qui a lieu demain devant la librairie Yo à 15h.
Et merci à Adèle d'avoir assuré la technique de cette émission.
On se retrouve la semaine prochaine sur les ondes de Syllabe. Et d'ici là, bonne semaine à tous.
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllabe.